SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Allez, il est temps maintenant de parler un petit peu de politique, parce qu'il se passe quand même énormément de choses en France en ce moment avec toutes les nouvelles lois, les nouvelles dispositions, avec Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Christophe.
Alors la politique, ça vous anime, ça nous anime tous. C'est clair qu'en France, il se passe pas mal de choses, et donc surtout du niveau social. Décryptez-nous un petit peu ce qui se passe en France.
Alors effectivement, on a eu la période... électorale d'Emmanuel Macron, les premiers mois, les 100 jours, l'installation.
Les fameux 100 jours, ouais.
Les fameux 100 jours, l'installation, un gouvernement, un premier remaniement.
Alors, on parlera pas d'une chose, c'est son chien qui fait pipi sur la cheminée. Ça, on n'en parlera pas.
Non, c'est...
C'est anecdotique et on n'en parle pas.
Une agence de presse assez renommée l'a déjà fait pour nous. Alors, il y a eu, en fait, ces premiers mois, 6 réformes sociales assez importantes et qui s'étalent encore sur 2018. J'ai envie de vous parler de ça d'abord parce que c'est véritablement l'ADN de ces premiers mois d'Emmanuel Macron. Alors, ces 6 réformes sociales qui s'étalent sur 18 mois, la première, elle concerne le droit du travail et le code du travail. Et quelque chose d'assez intéressant et dont on parle énormément en ce moment, c'est que cette réforme-là est faite par ordonnance.
D'accord. Alors, ça, c'est intéressant parce que tout le monde parle de ce mot d'ordonnance. On connaît l'ordonnance chez le médecin. Mais une ordonnance en politique, c'est quoi exactement?
Alors, très simplement... En politique, quand on parle d'ordonnance, c'est le Parlement qui délègue son pouvoir de légiférer au gouvernement. Voilà, c'est exactement ça, une ordonnance. Alors, il faut savoir que c'était une des promesses du candidat Macron à l'époque, c'était de légiférer par ordonnance.
Il l'avait dit, dès le départ.
Il l'avait dit. Alors, pour comprendre exactement ce que c'est, il faut juste remonter d'un niveau et voir rapidement deux principes. Le premier principe, c'est celui de la séparation des pouvoirs. En France, vous savez, on a le pouvoir législatif, donc l'Assemblée nationale, le Sénat, et on a le pouvoir exécutif, le gouvernement et le président. Et tout ça, c'est défini dans l'article 34 de la Constitution. On va parler un peu de Constitution parce que ici aussi, en Australie,
on en parle, c'est clair.
On en parle notamment avec la double citoyenneté, l'article 44 de la Constitution. Bon, revenons à la France avec l'article 34 de la Constitution.
Il y a le pouvoir judiciaire aussi. Hein.
Il y a le pouvoir judiciaire. Alors là, il ne rentre pas en compte. Ouais. L'article 34 de la Constitution, il définit en fait le domaine de la loi et qui recouvre une majorité des sujets que les politiques traitent, c'est-à-dire les impôts, l'éducation, la fiscalité d'entreprise. Tout ça, ça doit être légiférer et c'est le pouvoir législatif qui s'en charge.
Donc le Parlement. L'Assemblée nationale et le Sénat.
Il y a une nécessité de voter une loi par les assemblées législatives sur ces sujets-là. Le deuxième principe, c'est celui de la hiérarchie des normes. En France, on a un décret qui peut être pris par le pouvoir exécutif, donc le président, le gouvernement, mais ce décret ne doit pas être contraire à la loi qui, elle, est votée par le pouvoir législatif. Pourquoi ? Parce qu'il y a une hiérarchie des normes. Alors, quand je dis ça, en fait, enfin, pourquoi je dis ça, c'est parce que l'ordonnance, qui est régie par l'article 38 de la Constitution, c'est un petit peu un contournement de cette règle-là.
Donc ça court-circuite, ça.
Alors, ça court-circuite d'une certaine façon, parce que le gouvernement, il est autorisé à prendre, pendant un délai qui est limité et sur un certain nombre de sujets, des mesures qui sont normalement du ressort du Parlement et qui sont régies par les deux principes dont je viens de vous parler, il peut prendre ces mesures sans passer par le Parlement.
Donc, juste pour simplifier les choses, normalement, une loi, c'est présentation d'une loi à l'Assemblée nationale, c'est accepté à l'Assemblée nationale, ça monte au Sénat. Au Sénat, c'est accepté, ça redescend à l'Assemblée nationale pour être revalidé. Et le président ou le gouvernement signe sur la ligne pour mettre en action cette loi.
Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais...
En gros, c'est ça.
Voilà.
Et puis, aujourd'hui, une ordonnance, ça court-circuite ça.
Voilà, alors ça court-circuite ça. Alors, il faut juste savoir que ce n'est pas non plus quelque chose qui est nouveau de la part d'Emmanuel Macron. Par exemple, sous le gouvernement Sarkozy, il y a eu 136 ordonnances qui ont été prises. Il y en a qui ont été prises aussi sous le gouvernement Hollande. L'avantage, en fait, d'une ordonnance, et pourquoi, en fait, c'était une mesure phare du candidat Macron à l'époque, c'est que c'est une mise en œuvre qui est rapide de la réforme, puisqu'on, d'une certaine façon, on ne passe pas par le processus classique de fabrication d'une loi. L'inconvénient, en fait, c'est que la représentation nationale, les deux assemblées, elles ne peuvent ni discuter, ni véritablement modifier le texte. Alors, ça ne veut pas dire que le gouvernement et le président peuvent faire n'importe quoi. D'abord, le président, il faut enlever un fantasme de la tête de beaucoup d'auditeurs, le président, il ne fait que signer. ou pas d'ailleurs, les ordonnances. C'est véritablement le gouvernement...
Avec le chef du gouvernement.
Voilà, avec le chef du gouvernement, avec le Premier ministre,
donc le Premier ministre.
Qui prend les ordonnances. Et surtout, en fait, ce qui s'est passé l'été dernier, si vous vous en souvenez, c'est que l'Assemblée nationale et le Sénat ont de toute façon dû voter une loi d'habilitation qui permettait au gouvernement, à son chef, de passer par ce processus d'ordonnance. Donc, de toute façon, il y a eu un vote aussi de la majorité, enfin d'une majorité parlementaire pour permettre au gouvernement de prendre ses ordonnances. Et puis après, il y aura dans quelques mois, enfin dans quelques semaines plutôt, un vote des deux assemblées pour que l'ordonnance devienne une loi. Parce que comme on a vu qu'il y a le principe de hiérarchie des normes, si ça ne devient pas une loi et que ça reste inférieur à une loi, c'est l'ancienne loi qui continue de s'appliquer.
D'accord.
Vous voyez ? Donc en fait, pour résumer, c'est une manière un petit peu de contourner le processus classique d'élaboration d'une loi, mais il y a quand même des garants, des contreparties qui font que c'est cadré et que ce n'est pas la décision du roi ou le fait du prince de dire « voilà, je vais sur ce sujet-là décider ça sans l'aval d'une majorité parlementaire ».
Donc ça, c'est important de le rappeler. Hein.
C'est important de le rappeler parce qu'en fait, c'est le processus qui a été choisi pour tout ce qui était, en termes de réforme sociale, la partie droit du travail et réforme du code du travail. C'était une des promesses de Emmanuel Macron parce qu'il trouvait que en fait, le droit du travail ne répondait plus vraiment aujourd'hui à la diversité des entreprises. Et que surtout, il voyait aussi une manière de renforcer la protection des salariés et d'anticiper aussi les futurs métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il a voulu aller vite et choisir ce processus-là d'ordonnance.
Est-ce que si on est l'avocat du diable, on peut dire aller vite aussi, ça évite le débat, ça évite peut-être le faire monter un peu la sauce dans les médias et peut-être justement une sorte de grondement populaire.
Alors je vais répondre évidemment oui et non. Oui, ça évite le débat classique et les jeux d'obstruction peut-être un peu classiques de l'Assemblée. Mais en fait, la contrepartie de ça, c'est qu'Emmanuel Macron a énormément concerté. C'est énormément concerté avec les organisations syndicales, patronales, parce qu'il avait besoin aussi d'un consensus pour faire passer ce projet-là d'ordonnance. Et on voit d'ailleurs que c'est important, cette concertation, parce que la suite des réformes sociales sur l'assurance chômage, etc., ça passe beaucoup moins bien. Et les premières organisations syndicales ont commencé à dire on va manifester contre le programme libéral d'Emmanuel Macron.
Même si ça gronde un peu, ça ne se lève pas non plus. On a vu pire en France. Hein,
ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Myriam El Khomri et la loi El Khomri sur le travail.
Effectivement. Il n'y a pas aujourd'hui un levé de bouclier pour l'instant, au moment où on se parle, contre ce qui se passe en ce moment.
Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé à ébullition. C'est contenu dans la casserole. C'est assez bien mené, c'est rondement mené. Maintenant, voilà, attendons de voir, puisqu'en fait, les prochaines réformes sociales, dont on peut parler d'ailleurs, elles vont s'étaler sur 2018. Donc, il y a ce droit du travail par ordonnance. Après, vous avez tout un paquet sur l'assurance chômage, la formation professionnelle et l'apprentissage. Et comme dit là, c'est pour donner davantage de protection aux salariés, plus de flexibilité dans l'entreprise. Ça a été lancé en octobre 2017, donc il y a quelques jours, et ça va se prolonger au début de l'année 2018. Et puis, il y a une réforme qui est assez symbolique, assez importante, qui concerne la hausse de la CSG, la contribution sociale généralisée, et la suppression de cotisations sociales. En gros, l'idée de ça, c'est de dire plus de personnes dans la société vont participer et ça va profiter davantage aux salariés, ça va redonner du pouvoir d'achat aux salariés. C'est une espèce de... il est très comme ça, même Macron, dans « je donne un peu, j'enlève par-ci, je donne par-là ». Là, vraiment, c'est un peu un jeu de vase communicant entre augmenter en fait, le nombre de personnes qui participent de fait à la CSG, à cet impôt-là, et supprimer les cotisations sociales pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés dans les entreprises. Donc ça, c'est une véritable réforme assez symbolique d'Emmanuel Macron. L'idée, c'est de faire aussi un peu plus payer les... Enfin, l'idée, ça va de fait faire un peu plus payer les retraités.
Ça passe comment, ça ?
Pour l'instant, on est au début, donc on va voir encore une fois. Ça a été annoncé dans la feuille de route d'Edouard Philippe, là, en octobre. On va voir. Il y a tout un jeu de concertation, en fait, d'ici à la fin de l'année. Et puis, on va voir en 2018 si ça va être effectivement... voter ou pas.
En termes de réforme, 2018, ça va être une année hyper importante en France.
Oui.
L'agenda est plutôt chargé. Il y a des réformes clés autres que celles dont on vient de parler.
Alors, il y a une réforme clé dont on parle beaucoup, qui est très médiatique. C'est une loi sur les violences sexuelles et le harcèlement de rue. Alors, c'est aussi très conjoncturel parce qu'il y a eu l'affaire Weinstein il n'y a pas longtemps et puis la parole se libère un petit peu dans, dans les médias, dans les milieux artistiques, mais même autres.
Ceci étant dit, la France avait lancé le processus avant que l'affaire sorte.
Oui, la France, c'est pas une réaction comme ça. Non, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, conjointement avec la garde des Sceaux, avait déjà lancé en fait cette réforme-là. L'idée, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est de définir un âge pour le consentement des mineurs. Ça fait suite à une affaire il y a quelques temps où en fait un adulte avait une relation sexuelle avec une mineure de 11 ans et puis il semblait ne pas avoir de réticence de la part de cette mineure-là. Donc l'idée c'est de véritablement définir un âge en dessous duquel en fait on peut pas dire qu'il y a un consentement des mineurs.
C'est pas déjà le cas, il n'y a pas déjà quelque chose.
Là en tout cas le jugement je crois du tribunal de Pontoise avait effectivement considéré qu'il n'y avait pas d'agression sexuelle. L'idée aussi, c'est d'allonger le délai de prescription des crimes sexuels. Et ça fait vraiment écho à ce qui se passe actuellement, parce qu'on sait que quand il y a une violence sexuelle, du harcèlement, etc., la parole, elle peut mettre du temps à se libérer. Pour l'instant, le délai, il était de 20 ans à partir de la majorité. Donc, quand vous avez subi un harcèlement sexuel ou un viol mineur, vous aviez en fait jusqu'à 38 ans
pour en parler.
Pour en parler, puis qu'il y ait des suites devant les tribunaux. Et puis là, l'idée de Marlène Schiappa et de Nicole Belloubet, c'est de dire on va allonger peut-être de 20 à 30 ans ce délai de prescription parce que la parole peut mettre du temps à venir. Et puis la réforme un peu plus médiatique et qui fait plus parler d'elle, c'est le harcèlement de rue. Là ça pose alors évidemment l'idée elle est très intéressante de sanctionner le harcèlement de rue. Maintenant il va y avoir tout aussi un travail de définition juridique, c'est comment on va définir le harcèlement de rue. Voilà, ça c'est un gros projet d'Emmanuel Macron pour du gouvernement d'Emmanuel Macron pour 2018. Après, il faut pas oublier qu'il y a quelques jours, il y a eu aussi le budget qui a été voté en première instance, le budget 2018. Sur ce point-là, j'aimerais dire quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit aussi entre au moment du premier discours d'Édouard Philippe qui demande la confiance et ce vote sur le budget-là, une opposition qui commence quand même à se construire face à Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on est passé de 67 votes contre au moment de la confiance, à 172 contre. C'est-à-dire que ce qui va être aussi intéressant pour les prochaines réformes et pour 2018, c'est de voir si Emmanuel Macron, d'une certaine façon, aura toujours autant de facilité à faire passer réformes, lois, etc., ou si une opposition peut-être plus importante va se solidifier.
Alors clairement, ce changement de chiffre, il n'est pas dans l'opposition pure du style la France insoumise, mais c'est clairement que ce soit les députés de gauche ou de droite qui décident de bouger dans un sens ou dans l'autre. C'est de là dont on parle la composition naturelle de cette opposition.
Là, on est organique. Exactement, on est même vraiment dans les Républicains. C'est surtout un jeu, je ne sais pas si on peut appeler ça de chaise musicale, mais en tout cas des Républicains.
Nous, on va le dire.
qui ont changé. Ce qui est intéressant aussi, et c'est ça, on n'a pas encore les éléments de réponse, c'est que les Républicains ont des élections fin de l'année.
Pour élire leur nouveau chef.
Exactement, on a trois candidats. Les élections seront le 17 décembre. On va voir si c'est une ligne plutôt conservatrice avec Laurent Wauquiez ou si c'est une ligne peut-être un peu plus réformiste, libéral, appelons-la comme on veut, avec Maëlle de Calan, il y a encore une troisième candidat, Florence Portelli. Et puis le PS a un congrès, alors lui, c'est même pas une élection, c'est un congrès de refondation, début 2018, parce que pour l'instant, on a une direction collégiale qui ressemble plus à une armée mexicaine qu'à une direction collégiale.
Ouais. Ah oui, ils ont tout à vendre, même les murs.
Ils ont tout à vendre, même les murs. Les Républicains ont aussi tout à vendre, même les murs.
Donc, et on se rend compte, alors je fais une aparté, mais on se rend compte de l'impact de cette élection aujourd'hui d'Emmanuel Macron, qu'on parlait justement des partis, que ce soit à gauche ou à droite. À gauche ou à droite, on est presque obligé de vendre la maison pour pouvoir survivre.
On vend la maison pour pouvoir survivre. Et puis ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle quand on avait échangé au moment des élections, on parlait beaucoup du Front National et du Front de Gauche, et on voit qu'ils peinent tout de même à exister. Maintenant, alors le Front National, je pense qu'il y a un véritable problème de leadership et de ligne politique clairement établie. Et puis au Front de Gauche, ils sont empêtrés en ce moment dans des affaires. C'est bien parce que ça fait écho à la loi de moralisation de la vie politique qui était une des premières lois votées sous le gouvernement Macron. Mais on le voit là avec les histoires de HLM, de logement de la ville de Paris, etc. Le Front de Gauche est en train de perdre un petit peu ses plumes là. J'en profite et je rebondis sur ces questions de moralisation pour dire que la loi de moralisation de la vie politique a été une des premières lois votées par Emmanuel Macron après son arrivée au pouvoir. Et celle-là est déjà effective puisque les députés doivent déclarer avant la fin de l'année ou en tout cas se mettre en conformité pour ne plus employer par exemple des membres de leur famille, qu'on soit ministre, qu'on soit députés, qu'on soit élus locaux. Et puis ils doivent, et ça, ça avait fait un petit peu rire sur les réseaux sociaux, ils doivent maintenant aussi se donner des justificatifs de remboursement. Certains s'en étonnaient. En fait, c'est simplement un alignement sur ce qui se passe dans le privé quand vous avez des frais.
Comme vous et moi.
Voilà, exactement. Donc on voit ça, c'est une loi importante des premiers mois d'Emmanuel Macron. Et pour faire écho à ce qui se passe actuellement, et à un combat qui est plus européen que national, il y a aussi eu des avancées sur les travailleurs détachés.
Ouais.
Macron a obtenu beaucoup de ses partenaires européens.
Avec un beau conflit avec la Pologne. Hein,
un beau conflit avec la Pologne, évidemment. mais ça, c'est aussi une vraie loi, en tout cas une vraie avancée d'Emmanuel Macron au niveau européen. C'est d'avoir un durcissement de toutes ces polémiques et de toutes ces lois qui régissent les travailleurs détachés et qui, sans rentrer dans les détails, qui ont favorisé ces dernières années le dumping social, puisqu'on pouvait en fait, en détachant un travailleur par exemple d'Europe de l'Est en France, le payer avec le salaire minimum polonais qui est évidemment inférieur au salaire français. Ça ne va plus être le cas, on va devoir prendre les indicateurs locaux, on va dire, et le salaire minimum français. Donc ça, c'est une vraie victoire aussi.
D'ailleurs, les Allemands ne sont pas super contents d'ailleurs pour ça, hein, parce qu'eux, ils utilisent beaucoup ça dans une économie qui est plutôt florissante.
Non, mais ça, c'est un enjeu aussi d'Emmanuel Macron, c'est toujours ce couple franco-allemand, d'autant plus important dans la perspective de conséquences à venir encore du Brexit, où Allemands et Français vont un petit peu se tirer la bourre pour récupérer des industries, des banques, etc. Donc ça, par contre, c'est aussi peut-être dans le projet 2018, c'est le couple
Absolument.
Franco-allemand, que va-t-il devenir ?
Il y a du pain sur la planche.
Il y a beaucoup de travail, et puis il ne faut pas l'oublier, là on a parlé de ces 6 réformes sociales, ce n'est que le début.
Alors, j'allais y venir parce que je tiens juste à faire une clarification. On n'est pas pro-Macron ou anti-Macron
non.
ici. C'est une discussion pure et simple sur ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on va pas un peu vite à juger soit les bons résultats d'Emmanuel Macron, soit peut-être les quelques couacs qu'il y a eu parce qu'on est pris dans cette cadence de ce qui se passe aujourd'hui en France. Est-ce que globalement on peut revenir en arrière ? Il a juste été élu cette année. Est-ce que le bilan aujourd'hui, si on peut déjà tirer un mini bilan sur l'année 2017, il est plutôt positif par rapport à ce qui a été promis ou on est un petit peu en recul par rapport aux promesses faites ?
Écoutez, pour l'instant, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Mais on peut dire qu'en tout cas, ce qu'il avait avancé, ce que le candidat Macron avait avancé, pour l'instant, est plutôt mis en œuvre par le président Macron et son gouvernement. Donc ça, c'est le côté plutôt positif de la réponse à votre question. Après, ce qui reste en suspens, encore une fois, c'est qu'on en est au début et que sur les réformes sociales, par exemple, il y a tout ce jeu des concertations avec les partenaires syndicaux, patronaux, etc. Donc, impossible de vous dire si ces projets sur l'apprentissage, l'assurance chômage, etc. vont effectivement être menés à bien ou pas. Et puis, après, il y a aussi... il va y avoir aussi d'autres, j'allais dire... d'autres événements plus politiques. On anticipe assez bien un autre remaniement d'Emmanuel Macron après la désignation de Christophe Castaner, qui est porte-parole du gouvernement, pour prendre la tête du parti En Marche, La République En Marche. Donc il va devoir un peu remanier. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour ce prochain remaniement ? Et puis il y a aussi une vraie question politique qui va se poser en 2019. C'est qu'en 2019, on a des élections européennes. À quel parti va se rattacher Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il va devoir créer, j'ai lu ça quelque part, un autre parti encore pour ces élections européennes ? Est-ce qu'il va se rapprocher d'alliances déjà existantes au niveau européen ? Donc ça, c'est aussi plein de questions qui sont là, plus du domaine du jeu politique, qui reste totalement suspens. Mais pour résumer ce propos, j'allais vous dire, pour l'instant, candidat Macron et président Macron sont plutôt alignés, les planètes sont plutôt alignées. Maintenant, voilà, on va voir les premiers mois de 2018... si Emmanuel est toujours aussi confortablement installé sur son siège.
Eh bien, on gardera un œil là-dessus. Merci, Nathanaël, d'être passé nous décrypter un petit peu tout ça.
Merci, Christophe.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.